Classique 21, you rock. Radio Caroline, avec Olivier Monsens.
Salut, heureux de vous accueillir à bord du cargo de Radio Caroline qui a pour destination aujourd'hui deux cités utopiques, Marina Leda en Andalousie et Užupy en Lituanie. Août 1980, journal Le Monde. Depuis une dizaine de jours, la tension est grande à Marina Leda, dans la province de Séville, en Espagne. Quelques 600 personnes suivent une grève de la faim pour protester contre la décision qui affecte la majorité des habitants de la localité. À une centaine de kilomètres de Séville, Marina Leda est un gros bourg agricole qui vit au rythme archaïque du sud espagnol. La plupart des paysans sont des journaliers qui travaillent sur les exploitations de grands propriétaires de la région. Une fois les récoltes finies, ils se retrouvent sans travail. Les autorités suppléent en principe à ce chômage chronique en organisant un travail dit communautaire. Pour une somme inférieure au salaire minimum, les chômeurs sont employés dans les villages à des travaux de voirie. Mais ces dernières semaines, beaucoup de municipalités n'ont pas reçu les fonds destinés à cette allocation chômage déguisée, écrit encore Le Monde. Les commerçants ont d'abord fait crédit, puis la pénurie s'est installée. Les journaliers au chômage ne sont pas les seuls à faire grève. Des commerçants, des retraités les ont rejoints par solidarité. 29 avril 2009, près de 30 ans plus tard donc, alors que le monde ne se remet pas ou très péniblement de la crise des subprimes, on peut lire dans le New York Times, rien de moins, « Si l'Espagne est aux prises avec un chômage galopant et un effondrement du marché immobilier, le village andalou de Marina Leda suscite un regain d'intérêt. Attiré par son programme de logement et sa coopérative agricole dynamique, dont profite sa population depuis le début des années 80, des habitants des villages voisins, mais aussi des lointaines Madrid et Barcelone, y sont venus en quête d'un emploi et d'un logis. Pendant que le reste de l'Espagne s'embourbe dans des crédits bon marché pour acheter des maisons hors de prix, les citoyens de Marina Leda construisent leurs propres habitations sans hypothèque grâce au programme de la municipalité. Et lorsqu'un villageois perd son emploi, la coopérative l'embauche de sorte que personne au village ne cherche du travail. Une affirmation qui, conclut le New York Times, détonne dans une région où le chômage atteint 21%. Mais que s'est-il donc passé au cours de ces trois décennies entre 1980 et 2009 pour que ce village connaisse une telle évolution et gagne le statut de cité utopique, à tout le moins autonome et hermétique aux crises? Pour comprendre l'étonnante évolution qu'a connue en 30 ans le village andalou de Marina Leda, jadis miséreux comme une grande partie du sud de l'Espagne rurale, avant de devenir, au dire de beaucoup, une cité utopique, revenons un instant en arrière, juste avant la Seconde Guerre mondiale. En 1936, les élections générales espagnoles ont vu le triomphe du Front populaire, avec pour conséquence une guerre civile qui, à Marina Leda, commence par l'assassinat du maire de la ville, de son fils et d'une trentaine d'habitants. Une fois les rébellions anarchistes et communistes matées, étouffées, le général Franco traquera sans relâche les derniers résistants républicains, certains échappant à cette répression sanglante qu'au prix d'une dangereuse fuite vers la France. À la fin des années 30, une fois la guerre civile terminée, c'est de la famine dont souffrira plus que jamais et plus que toute autre région espagnole, la population andalouse. Pour survivre, ses habitants sont contraints de glaner des olives ou des glands dans les champs des grands propriétaires terriens, subissant en retour la violente répression de la garde civile qui, ai-je lu, n'hésite pas, en plus de la prison, à arracher les dents de ceux qui avaient cueilli pour manger. Une extrême pauvreté mêlée de détresse qui durera plusieurs décennies. Mais en 1975, avec la mort du dictateur Franco, la donne change. Certes, la misère est toujours là, le sol des habitations comme celui des rues est toujours en terre battue et les infrastructures médicales autant que scolaires sont défaillantes. En revanche, la parole, comme la contestation, se libère, s'exprime désormais sans risque de répression et notamment à Marina Leda, commune entourée d'immenses exploitations appartenant pour la plupart à de riches propriétaires terriens appelés Los Terratenientes. qui exploite des milliers d'hectares et des dizaines de milliers d'ouvriers agricoles, dont une grande partie de journaliers, ces travailleurs payés à la journée. Bref, c'est le royaume du travail précaire. Et c'est dans ce contexte qu'en 1977, 2 ans après la fin de la dictature franquiste, le syndicat des ouvriers du champ, le SOC, voit le jour. L'objectif de ce premier syndicat autorisé est avant tout d'aider et défendre les journaliers andalous. Après quoi, à l'initiative du curé des pauvres, Diamantino Garcia, des militants de cette organisation vont créer le parti Candidatura Unitaria de Trabajadores, candidature unie des travailleurs, le bras politique en quelque sorte de ce mouvement syndical. Et c'est ainsi que Juan Manuel Sánchez Gordillo sera élu en 1979 à 27 ans, maire de Marinaleda, 27 ans, le plus jeune d'Espagne à l'époque, échappant de peu, cela dit, à une tentative d'assassinat par l'extrême droite. Une fonction de maire qu'il occupera pendant 44 ans. Parmi les premières mesures symboliques prises en 1979 par le jeune maire de Marinaleda, l'interdiction aux élus et donc à lui-même de toucher de l'argent en échange de tout mandat et le changement du nom de nombreuses rues, histoire de faire disparaître les patronymes franquistes et de mettre en avant des révolutionnaires et des poètes comme Che Guevara, Pablo Neruda, Salvador Allende ou encore Federico Garcia Lorca. Quant à son projet municipal, il repose sur 2 principes, l'égalité de tous et la participation des habitants aux décisions lors d'assemblées générales convoquées régulièrement pour débattre et voter des décisions que doit prendre la municipalité. Par ailleurs, Gordillo met au point une planification urbaine qui élimine la spéculation et permet l'accès à des logements neufs, spacieux et confortables pour un loyer de 15 euros par mois via un système d'autoconstruction, je vais y revenir. De même, l'emploi sera assuré pour tous à Marinaleda grâce à l'établissement d'une coopérative agricole où chaque travailleur touche un salaire identique de 47 euros par jour, soit 1200 euros par mois. Enfin, c'est à noter, il n'y a pas de police à Marinaleda et tout cela sera résumé des années plus tard par Juan Manuel Sánchez Gordillo dans un documentaire comme ceci.
Pues es un partido político de izquierda y cuando decimos de izquierda anticapitalista y cuando decimos anticapitalismo decimos economía social, decimos economía solidaria, decimos que los medios de producción tienen que estar en manos de los trabajadores, decimos que la riqueza tiene que repartirse, apostamos por la empresa pública, decimos que se tiene que nacionalizar la banca y decimos que se tiene que caminar hacia la igualdad y hacia el pleno empleo.
Au cours de ses mandats, Sánchez Gordillo organisera aussi l'occupation de terres appartenant à de grands propriétaires qui les ont laissées en friche. Par exemple, en 1984, le syndicat occupera pendant 1 mois un réservoir d'eau pour réclamer l'irrigation du domaine du duc de Infantado dans le but d'activer une vieille loi selon laquelle, lorsque les terres en friche d'un propriétaire terrien sont irriguées, il est alors possible d'en exproprier une partie. Pendant ce temps, des femmes camperont plusieurs jours devant une résidence royale à Séville. Malgré la répression de ces actions, des dizaines d'autres occupations de terres auront lieu, accompagnées de sit-ins médiatisés dans des lieux de pouvoir, et ce au cri de « la terre est à ceux qui la travaillent ». Et quand, en 1992, approchera l'heure de l'ouverture de l'exposition universelle de Séville, cible dispendieuse, bien évidemment, du maire médiatique Sánchez Gordillo, les autorités finiront par céder, histoire d'éviter que l'image internationale de l'Espagne ne soit altérée. Le gouvernement andalou rachètera dès lors, au prix du marché, les 1200 hectares des terres du duc pour en donner l'usufruit à Marinaleda via 8 coopératives créées pour l'occasion, les coopératives d'El Humoso, lesquelles vont privilégier des cultures exigeant beaucoup de main-d'œuvre pour faire travailler beaucoup de monde, l'une de ces coopératives ayant pour mission de commercialiser les produits. Résultat, quelques 500 emplois seront créés. Avant, on était chômeur, ouvrier, agricole, itinérant. Aujourd'hui, tout le monde a un travail fixe, témoigne un superviseur de récolte dans la presse en 2003. Le gérant d'une usine de mise en boîte d'artichauts confirmant « Pendant 20 ans, j'ai vécu à la merci des employeurs. Je travaille désormais dans une coopérative unique en Espagne. Tout le monde touche le même salaire, 34 euros par jour, et tous les bénéfices sont réinvestis sous forme de création d'emplois. » Quand en 2008 éclatera en Espagne comme ailleurs la bulle immobilière qui touchera de façon dramatique l'Andalousie, de nombreux médias internationaux, dont le New York Times, on l'a vu, auront l'occasion de vérifier qu'à Marina Leda, l'utopie sur 25 km² s'est révélée viable et solide face aux dérives du marché. Grâce notamment à ce fameux concept d'autoconstruction qu'une élue résume en ces termes. La municipalité achète des terrains et paye des architectes, le gouvernement d'Andalousie subventionne du matériel et dès lors, la seule chose que l'on doit faire pour être logé, c'est de rejoindre un groupe d'autoconstructeurs et participer à la construction de sa maison, la mairie employant des maçons professionnels pour conseiller les habitants et réaliser les travaux les plus compliqués. Comme l'occupant ne rembourse pas le prix réel de la maison, la rente est fixée au début à 15 euros par mois pour 90 mètres carrés avec terrasse, il n'en est pas propriétaire et ne peut pas la vendre, mais s'il doit partir, la mairie le rembourse à hauteur des heures qu'il a travaillées. Le logement, c'est un droit, ajoute l'élu, pas un commerce. Plus récemment, de nouveaux blocs de logements ont été construits à Marina Leda pour la location cette fois, mais toujours à prix réduit. Cela dit, sur la longueur, ce système cessera de faire l'unanimité, même à gauche. Sur le fond, il y a beaucoup de positifs, mais je suis en désaccord avec la manière de procéder, estimera un élu socialiste natif de Marina Leda, mais qui a préféré s'installer dans une ville voisine. Sánchez Gordillo s'est imposé comme un leader maximo autoritaire qui pratique le clientélisme. Il contrôle le moindre détail à la mairie et au sein de la coopérative. Il sait que tout le monde lui doit quelque chose et il en joue pour faire taire les critiques. Un autre citoyen, patron de bar, confiera « Si vous n'êtes pas avec lui, vous êtes son ennemi pour toujours. La preuve, les gens du syndicat, ses alliés, boycottent mon établissement. » En 2019, et pour la première fois depuis 40 ans, Sánchez Gordillo ne fut pas réélu à la majorité absolue, mais avec seulement 44 voix d'avance, déclenchant, ai-je lu dans la presse, la fureur de l'édile qui, lors d'un discours devant des partisans enflammés, promit les ténèbres pour les opposants, désignés comme traîtres, avant de préciser « nous allons continuer à construire des maisons ». Bien sûr, les premiers logements seront pour ceux qui se sont le plus mobilisés pour ce projet. Le problème, reconnaît en 2023 un élu d'opposition, mais néanmoins ancien fidèle, c'est qu'on est passé d'un système démocratique d'assemblée à une espèce de centralisme clientéliste sectaire avec une seule personne qui s'occupe et décide de tout. À un moment, il en a marre de bosser gratis des après-midi entières pour la révolution. Et ce désormais opposant d'ajouter « Quand je travaillais à la piscine municipale, je bossais 72 heures au lieu de 40 et quand je demandais des vacances, on me traitait de bourgeois. J'ai fait tout ça avec joie, mais arrivé à un certain âge, tu te dis « C'est bon, j'arrête, je peux utiliser mon temps différemment. » En 2023, le gouvernement d'Andalousie a émis le souhait de récupérer les terres concédées à la coopérative agricole. Protestation de la mairie qui souhaitait les racheter à un prix symbolique, mais aussi de la coopérative dont les liens se sont détériorés avec la mairie et qui voulait, elle, conserver ses terres pour elle-même. L'utopie n'est plus ce qu'elle était, mais bon, elle aura duré tout de même quelques décennies. N'empêche, lors des élections municipales de mai 2023 et auxquelles Juan Manuel Sánchez Gordillo ne s'est pas représenté après 40 ans au pouvoir, la liste de son héritier politique, Sergio Gómez Reyes, obtiendra 56% des votes contre 42% pour son principal opposant, la droite, les socialistes et le parti d'extrême droite identitaire Vox, ne récoltant que des miettes. Sans nier les problèmes et la légitimité de certaines contestations, le nouveau maire explique. Il faudrait des anthropologues pour comprendre comment on en est arrivé à cette situation. Après des décennies d'un processus très complexe, il y a forcément des frictions. Et puis les gens sont fatigués et certains n'ont plus la tête aux luttes. Sánchez Gordillo est malade et il nous manque un projet régénérateur avec des jeunes décidés à aller de l'avant. Mais cela dit, vous en connaissez beaucoup des municipalités qui refusent d'appliquer les augmentations légales d'impôts où les loyers sont à 15 euros et la garderie à 12 euros. Je ne pense pas qu'il faille tout jeter d'un revers de la main parce qu'il y a eu des problèmes. C'est sûr qu'avec le Covid, ça fait longtemps qu'on n'a plus d'assemblée de quartier, mais on va relancer tout ça. Je suis très optimiste. Allez, on quitte la Méditerranée, on passe le détroit de Gibraltar et l'on remonte le continent vers la mer Baltique, histoire d'accoster en Lituanie pour y rejoindre une autre cité utopique, bien différente, plus poétique que polémique. Saviez-vous qu'il y a à Vilnius, en Lituanie, une république dans la République? Elle s'appelle Užupy, elle est située en plein centre-ville et on y accède une fois passé un pont enjambant la rivière Vilnia. Lorsqu'on s'y promène, on y croise des constructions récentes, mais aussi des immeubles en briques rouges datant du siècle passé, ou encore des maisons en bois, parfois rénovées, parfois vieillissantes. Usupi est une micronation fondée en 1998 et dirigée par un président à vie, le poète, musicien et réalisateur Romas Lilekis, et une reine élue chaque année, ce duo singulier veillant au bonheur de 7000 concitoyens. La monnaie d'Usupi est le rouge. Son drapeau représente une main ouverte dont la paume est percée d'un trou, puisque selon la philosophie de ses créateurs, l'homme ne possède rien. Une cité utopique qui compte aussi un journal, Usupio Heroldas, le messager d'Usupi, dont le rédacteur en chef occupe également le poste de ministre des Affaires étrangères. Il faut savoir que la dite république a établi de nombreux liens internationaux honorifiques et est notamment jumelée avec la République de Montmartre, mais pas, semble-t-il, avec la République libre d'Outremeuse à Liège, à vérifier en tout cas. Quant au gouvernement, il est décrit par un habitant comme un corps fluctuant de ministres volontaires travaillant selon le principe du consensus et dont la mission est d'administrer le pays le plus démocratique du monde. Et l'un des plus petits aussi, à peine un peu plus d'un demi-kilomètre carré. Au début du XVIIIe siècle, raconte le ministre des Affaires étrangères, Usupi était formé de plusieurs îles jalonnées de nombreux moulins. C'était un faubourg d'artisans où on travaillait le cuir. Puis le territoire a été unifié, les moulins ont disparu, et il y a eu les Russes, les Allemands, les Soviétiques. Mais au cours de ces différentes époques, cette partie de la ville a toujours conservé son caractère singulier. On s'y sent plus libre, sans doute parce qu'il faut traverser la rivière pour s'y rendre, c'est ce qui en fait un lieu à part. Tout de même, lors de l'occupation soviétique, l'endroit est devenu un quartier ouvrier mal famé. Les gens étaient effrayés de venir ici et cela a duré jusque dans les années 2000, poursuit notre ami, l'un des fondateurs de la République d'Usupi, autoproclamée en 1998. La constitution, dit-il encore, on l'a écrite en 3 heures avec des amis. À l'époque, on voulait surtout s'adresser aux délinquants, leur montrer que nous aussi, les artistes, nous cherchions la liberté, tout comme eux. Un texte traduit dans une 20aine de langues, placardé dans la rue principale et qui précise, au hasard de ses articles, « Hommes et femmes ont tous les droits, sauf celui d'être violent. L'homme a le droit de ne rien comprendre du tout. Le chat a le droit de ne pas aimer son maître, mais doit le soutenir dans les moments difficiles. » Cette constitution se terminant par « Ne conquiert pas, ne protège pas, n'abandonne jamais. » Le mode de vie des habitants d'Usupi à Vilnius, en Lituanie, a évolué au fil du temps et il est aujourd'hui bien différent de celui que l'on pouvait connaître dans les années 90, époque où les squatteurs pirataient allègrement l'électricité. Il y a 20 ans, c'était encore terrible, se rappelle une habitante, la population d'Usupi survivait en partie grâce à son potager. Mais en l'espace de 10 ans, c'est devenu le meilleur endroit de la capitale. Tout est accessible à pied, on s'y sent comme dans un village. Dans lequel il existe même une place du Tibet où le Dalai Lama s'est rendu 2 fois et où l'esprit libertaire est toujours très présent. Les artistes sont évidemment nombreux à Usupi et beaucoup ont acheté leur habitation il y a des années quand l'immobilier était bien plus accessible qu'ailleurs dans la capitale. Une céramiste se souvenant, lorsque j'étais à l'école d'art, pas loin, c'était un rêve de m'installer ici, d'avoir mon studio de création. Tout le monde parlait de cette ambiance unique. Bien sûr, le quartier a évolué, l'ancien squat bariolé est devenu un espace géré par la municipalité et rénové grâce à des fonds européens. Mais on rencontre des gens étonnants tous les jours, surtout quand il fait beau et que la porte de l'atelier est ouverte. La gentrification a bien sûr gagné le territoire. Pour preuve, l'ancien maire de Vilnius y a même élu domicile. Par ailleurs, le fléau touristique guiguette comme celui de la marchandisation du lieu. Mais l'un des fondateurs veille au grain de folie. Usupi, c'est un esprit, ce n'est pas pour faire de l'argent ou vendre des produits dérivés. Ça dit, ajoute un citoyen, nous sommes des gens polis, alors nous avons créé un ministère du tourisme pour étudier qui sont ces touristes, pourquoi ils viennent et comment nous pouvons les aider. Comme le raconte une journaliste envoyée spéciale à Usupi, je la cite, « Le quartier est aujourd'hui réputé pour sa convivialité, sa fête du 1er avril où une douane s'installe sur le pont de la Vilnia, sa Saint-Patrick où l'on colore la rivière en vert, son marché du jeudi ou du vendredi où les habitants se retrouvent autour de petits producteurs locaux et les autres jours, passé le pont au cadenas où viennent se photographier les amoureux, on suit les bords de la rivière et les petits sentiers qui se faufilent entre les maisons. À la belle saison, on découvre des potagers foisonnants, des grands-mères d'origine russe ou polonaise qui boivent le thé sur la terrasse de leur jardinet. Plus loin, une poignée de vieux jouent au backgammon dans un triangle de verdure et un bouquet de roses trémières s'élance vers des balcons suspendus, fragiles, dans le vide. On oublierait presque qu'on est ici à quelques pas du cœur de la capitale. Notre voyage à travers ces deux cités utopiques se termine ici. Merci d'avoir écouté ce podcast. Si vous l'avez apprécié, n'hésitez pas à le faire savoir, à le faire connaître, à le partager et à l'étoiler. Bonne journée ou bonne nuit. Radio Caroline.
Découvrez toute l'offre podcast de votre radio préférée sur classique21.be.